Juliette Rangeval.
We're inventive, accepting, eccentric, and yes, I suppose we're a bit bizarre. But if you delight in celebrity...
Bonjour, et vous, votre Brexit, vous le prendrez comment ? Les députés britanniques ont jusqu'au 29 janvier pour se prononcer sur le nouveau plan concocté par leur première ministre Theresa May après le rejet la semaine dernière de l'accord de divorce négocié avec l'Union européenne. Mais de chaque côté du Channel, désormais, les préparatifs s'accélèrent dans l'hypothèse d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord. D'un côté, Londres vient d'ouvrir la procédure pour les Européens souhaitant rester après le Brexit. Il y a même une application mobile pour ça. Paris, de son côté, a dévoilé son plan lié à un Brexit sans accord, 5 ordonnances qui vont être adoptées dans les 3 prochaines semaines. Il s'agit notamment de réglementer le statut des 200 000 Britanniques qui vivent en France. Ils auront 12 mois pour régulariser leur situation, sous réserve de réciprocité de la part du Royaume-Uni. Les Britanniques de France, une communauté qui a vu avec effroi mardi dernier les parlementaires rejeter l'accord négocié avec l'UE qui protégeait leurs droits. Reportage signé Frédéric Lebel.
We have confidence in this government, which is why I commend this motion.
Order! Under the order!
Le mardi soir, le soir de la vote, j'ai passé la soirée devant la télé en regardant en fait les événements de Westminster se dérouler devant mes yeux. Vraiment, je trouvais ça incroyable à quel point la défaite était lourde. Et la question de mais qu'est-ce qui va nous arriver ? Vraiment, la possibilité de quitter l'Europe sans accord, un hard Brexit, qu'est-ce qui va arriver ? Mon mari il fait toujours une blague avec les enfants. Bon, les enfants, le 29 mars, on va accompagner maman à la douane parce qu'elle va rentrer en Angleterre. Bon, j'espère que ça reste une petite blague, mais ça reste quand même une réalité. On ne sait pas ce qui va se passer. Du coup, ça, c'est difficile à vivre.
Sans accord négocié entre le Royaume-Uni et l'Europe, ce sont toutes les garanties patiemment négociées pour les résidents européens outre-Manche, mais aussi pour les Britanniques en France qui s'envolent. Catherine Maguire-Vielle a de sérieuses attaches dans l'Hexagone, un mari, 2 enfants. Mais dès qu'on élargit un peu le cercle familial aux parents restés en Angleterre, l'inquiétude grandit, un stress très palpable durant les fêtes de Noël.
Réunion familiale un peu chaotique, tout le monde parle, tout le monde se questionne, tout le monde, même au sein de ma famille, il y avait ma mère qui a voté Stay et mon père qui a voté Leave. Du coup, ça fait vraiment une vraie division dans la famille, où on a eu beaucoup de discussions. Surtout auprès de mon père, j'ai essayé de lui dire, mais papa, moi je suis à Paris à cause de l'Union Européenne. Vos petits-enfants sont moitié français, moitié anglais et on est là à cause de l'Union Européenne. Vous votez qu'est-ce qui nous arrive ? Du coup, c'est vraiment des conversations assez chargées et assez émotionnelles au sein de la famille.
Premier étage.
Dans les locaux de la Société internationale où elle est responsable des ressources humaines, le Brexit et de toutes les discussions. Après plus de 15 ans de résidence en France, Catherine réfléchit désormais sérieusement à la naturalisation française. Pas vraiment un choix puisqu'il est dicté par l'actualité politique.
C'est vrai que de prendre notre nationalité, c'est une question très importante quand même. C'est pas facile de devenir française. Pour moi, je suis très fière d'être anglaise. J'ai toujours été très fière de mon pays. Du coup, de penser quelque part que je vais pas relâcher parce que j'aurai la capacité de garder les deux, mais de changer de nationalité, ce n'est pas une question de facile. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait depuis 15 ans que je suis là. Je n'ai pas eu le besoin, je n'ai pas eu le sentiment de devoir le faire. Là, le fait que c'est un peu imposé, ouais, ce n'est pas très sympa.
Pour préparer les mois qui viennent et s'annonce incertain, une cellule de crise spéciale Brexit a été mise en place au sein de l'entreprise. 10 personnes y travaillent, dont Isabelle Rech-Francis, qui dirige le département juridique Europe. Difficile de réunir des informations fiables dans une actualité toujours mouvante.
Tout est possible. Il faut quand même savoir raison garder. Donc, en ce qui concerne les citoyens européens travaillant au Royaume-Uni et vice-versa, il y a quand même fort à parier qu'il y aura une période pendant laquelle rien ne se passera. C'est-à-dire que le 1er avril, non, ils ne seront pas en train de rentrer dans leur pays respectif. Néanmoins, c'est une situation qui peut être anxiogène pour certains de nos employés, notamment les plus jeunes, qui n'ont pas forcément d'attache soit au Royaume-Uni, soit en Europe. Donc, nous suivons ça de très près. Évidemment, nous les avons recensés. Nous leur donnerons les informations quand nous les aurons et quand elles seront surtout relativement fiables.
Les plus inquiets, ce sont les plus jeunes, sans conjoint français, sans résidence de plus de 5 ans dont ils peuvent justifier. Ils ne peuvent pas demander la naturalisation et le titre de résident est incertain. Jeudi, à 24 ans, elle a la chance d'avoir un passeport irlandais, mais pas son compagnon qui travaille aussi à Paris.
On s'inquiète parce que mon petit ami ne pourra peut-être pas rester en cas de no deal. On s'inquiète aussi parce que même si on n'a pas prévu de faire toute notre vie en France, on ne veut pas être poussé à rentrer en Angleterre. Et quand on sera en Angleterre, on ne veut pas y être coincé. Moi, j'ai toujours eu le choix. J'ai toujours voulu travailler dans différents endroits en Europe et je hais le fait que toutes ces possibilités m'aient été enlevées.
Allô ? Oui, bonjour madame, entrez.
Les angoissés du no deal, Fiona Mougenot les connaît bien. Chaque semaine, elle reçoit plusieurs demandes dans son cabinet de consulting Expat Partners, des résidents âgés qui ne maîtrisent parfois pas bien la langue française. À tous, elle conseille de déposer tout d'abord une demande de permis de résident. Un vrai retour en arrière pour cette Britannique arrivée en France en 1973, année de l'entrée du Royaume-Uni dans l'Europe.
J'ai vécu, comme tout étranger, la difficulté d'obtenir un droit de séjour. Il fallait demander le titre de séjour à la préfecture. Avec autant de papiers qu'aujourd'hui, rien n'a changé. Il y a même des personnes, dont certains guichets, qui sont toujours là. Et il y a la demande de nationalité, mais c'est une demande de nationalité, c'est des dossiers aujourd'hui prennent 12, 18 mois minimum.
Et avec aucune garantie.
Aucune garantie. Aucune.
Face au chaos annoncé, Fiona, qui n'a pas eu le droit de voter lors du référendum en raison de sa longue expatriation, garde un espoir, celui d'un grand retournement de situation et peut-être d'un second référendum.
Et si la France est le deuxième pays de résidence pour les expatriés britanniques en Europe ? Le premier, c'est l'Espagne, avec près de 300 000 ressortissants officiellement installés sur le territoire et beaucoup d'autres qui y résident sans avoir effectué les démarches officielles pour avoir le statut de résident. Laetitia Dive est allée à leur rencontre dans les villes du sud du pays, en Andalousie.
Dans ce café du centre de Séville, la télévision est branchée sur une chaîne d'information en continu qui diffuse des images de Theresa May après sa défaite face au Parlement britannique ce mercredi. Mais aux différentes tables, personne ne semble y prêter attention. Personne à part Yann, qui suit de très près toutes les informations concernant le Brexit. Et pour cause, le quinquagénaire est originaire d'Oxford et travaille en Espagne depuis 11 ans. Malgré le chaos politique actuel qui règne dans son pays, il tente de voir les choses du bon côté.
C'est dans l'intérêt de tout le monde d'éviter un hard Brexit aujourd'hui. Je pense que la date de sortie va être retardée et qu'il y aura de nouvelles négociations. Dans un monde idéal, ça permettrait d'organiser un nouveau référendum et le Royaume-Uni voterait en faveur du maintien. Mais dans tous les cas, je crois qu'on reviendra dans l'Union européenne un jour, sur le long terme. Je suis positif.
Pour Yann, comme pour la majorité des quelques 300 000 Britanniques qui vivent officiellement sur le territoire espagnol, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne pourrait compliquer leur vie quotidienne. Il leur faudrait accomplir beaucoup plus de démarches pour souscrire par exemple à la sécurité sociale, obtenir un permis de conduire espagnol ou encore pour toucher leur retraite. Car un tiers des Anglais qui ont choisi de venir vivre en Espagne ont plus de 65 ans. Carlos Baos est avocat à Alicante. Il est spécialisé dans le droit des personnes expatriées et depuis 2 ans, il a vu défiler beaucoup de Britanniques dans son cabinet. Tous sont inquiets et chacun lui expose une situation différente.
Il y a les retraités, ceux qui travaillent ici, et d'autres qui ont acheté un bien immobilier. Tous peuvent être affectés d'une façon ou d'une autre. Mais la première question, ce sera de savoir s'ils peuvent rester vivre en Espagne, car il est possible qu'à terme, ils doivent faire des démarches pour obtenir un permis de résidence, comme celui qu'on donne à ceux qui ne sont pas citoyens de l'Union européenne.
Pour le moment, les Britanniques peuvent en effet entrer librement en Espagne et chercher un travail, tout comme les Français, les Italiens ou les Allemands. Une fois la promesse d'embauche en poche, il leur faut demander un NIE, un numéro d'identifiant pour étrangers, qui leur donne officiellement le statut de résident espagnol sans date butoir. Ce statut est indispensable pour ceux qui souhaitent vivre durablement en Espagne. Il faut un NIE pour ouvrir une ligne téléphonique, avoir un compte en banque ou encore bénéficier de la sécurité sociale. Sans la citoyenneté européenne, les démarches pour l'obtenir sont beaucoup plus compliquées et elles se corsent également sur le plan fiscal. Carlos Baos.
Un non-européen paie plus d'impôts fonciers que quelqu'un qui vit dans l'Union européenne. Il va donc y avoir des conséquences fiscales et cela se verra également en ce qui concerne les impôts sur la succession et les donations. C'est un vrai préjudice. Les Britanniques vont devoir payer plus.
Yann, lui, est locataire. À Séville, il est payé en euros et ne subirait donc pas vraiment l'impact d'une chute de la livre. Il ne s'inquiète donc pas des possibles conséquences financières. Un autre aspect le préoccupe davantage. Il a eu une fille avec une Espagnole il y a 7 ans. Il est aujourd'hui divorcé mais souhaite pouvoir rester en Espagne pour la voir grandir.
Je suis le père d'une Espagnole et même si j'ai divorcé de sa mère, il me semble que ça me permet de garder mon droit de résidence ici. Ma fille n'a que 7 ans, donc je compte rester ici tant qu'elle aura besoin de moi. Et le jour où elle me dira « Papa, tu peux partir », alors je rentrerai en Angleterre ou j'irai au Japon ou ailleurs.
Et dans quelques années, Yann aimerait aussi que sa fille puisse s'installer au Royaume-Uni sans problème, pour y étudier par exemple. Alors pour parer à toute éventualité, il a un moment songé à lui faire une demande de passeport anglais.
Je ne l'ai pas encore fait car c'est vraiment trop cher, environ 500 euros. Je m'en occuperai si elle en a vraiment besoin. Et puis au cours des prochaines semaines, je verrai bien s'il faut faire la demande maintenant ou s'il faut attendre un peu. En tout cas, j'espère qu'elle aura la possibilité de venir étudier au Royaume-Uni. Peu importe ce que le futur nous réserve.
Quoi qu'il arrive, la fille de Yann devrait pouvoir obtenir la citoyenneté britannique du simple fait que son père est anglais. Mais c'est bien plus compliqué pour les Britanniques qui souhaiteraient obtenir un passeport espagnol afin de garder un pied dans l'Union européenne. Car en Espagne, seuls les ressortissants de pays qui ont conclu des traités de double nationalité avec Madrid peuvent obtenir un passeport espagnol tout en conservant leur nationalité d'origine. Le Royaume-Uni n'en fait pas partie et ces ressortissants doivent renoncer à leur nationalité britannique s'ils veulent devenir des citoyens espagnols. Ils sont quand même un certain nombre à avoir décidé de franchir le pas. Selon le bureau des statistiques anglais, le nombre de candidats britanniques à avoir demandé la nationalité espagnole a fait un bond de 431% en janvier 2017 par rapport à l'année 2016, année du référendum.
Et des demandes qui ont plus que quintuplé en Espagne donc, et en Allemagne aussi. C'est la ruée des Britanniques pour obtenir la citoyenneté allemande. Depuis Berlin, les explications de Julien Méchaussi.
Plus 162% de demandes de naturalisation. La ruée vers les passeports allemands est l'une des nombreuses conséquences du Brexit. S'il n'était que 2685 citoyens britanniques installés en Allemagne à avoir déposé une demande en 2016, ils ont été plus de 7000 en 2017. Sur les 100 000 britanniques vivant en Allemagne, plus de 10% souhaitent ainsi acquérir la nationalité allemande. Et avec la date butoir du 29 mars 2019 qui s'approche et la sortie définitive de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, le nombre de demandes continue de grimper en flèche. Car la législation allemande sur la double nationalité est particulièrement restrictive. Une exception est cependant faite pour les ressortissants de l'Union européenne et de la Suisse, un statut que perdront les Britanniques d'ici la fin du mois de mars. Unique possibilité pour être sûr de pouvoir rester en Allemagne et de se réinstaller à terme au pays, avoir les deux passeports. Le très sérieux Office fédéral allemand des statistiques a de son côté confirmé le lien direct entre le Brexit et la volonté d'obtenir la double nationalité, avec comme enjeu le droit de continuer à vivre et circuler librement au sein des pays de l'Union, mais aussi transmettre la double nationalité à ses enfants. Mais le Brexit et ses conséquences n'ont pas fini de surprendre. Les Allemands, installés de longue date en Grande-Bretagne, sont également inquiets. Et au Royaume-Uni, les demandes pour obtenir la nationalité britannique sont elles aussi en forte hausse. De 584 en 2015, elles sont passées à 2636 en 2017. Des Allemands qui ont peur de devoir quitter leur terre d'accueil après le 29 mars, des chiffres qui en disent long sur le flou juridique que va entraîner le Brexit pour de nombreux citoyens européens.
Je vous dis bonne année avec l'euro.
Euro-année. À 100% euro. Avec un sourire, ils vont payer. Il n'y a pas de problème. L'euro.
C'était le 31 décembre 2001, à minuit, la monnaie européenne entrait en circulation. Elle avait été adoptée le 1er janvier 1999 par 11 pays européens. Aujourd'hui, l'euro a 20 ans et ce n'est pas une totale réussite de la vie de Jean Quatremer, le journaliste qui suit depuis des années les questions européennes, publie « Il faut achever l'euro » chez Kalman Levy. Il est l'invité de Catherine Roland.
L'euro à 20 ans, ça reste toujours, si vous voulez, un adolescent en crise permanente. C'est une monnaie qui n'est pas parvenue à l'âge adulte parce que les États se sont arrêtés au milieu du gué. Les pères fondateurs de l'euro, lorsqu'ils ont négocié le traité de Maastricht en 1991, savaient qu'ils faisaient œuvre imparfaite. Ils ont fait une politique monétaire, c'est-à-dire ils ont créé une monnaie commune, mais ils n'ont pas été jusqu'au bout, c'est-à-dire créer un État fédéral européen. Alors quand je dis fédéral, les Français entendent super État, centralisé, à la française. Non, un État fédéral, c'est simplement, en face de la monnaie, vous avez un gouvernement politique et pas seulement économique, vous avez un budget, et vous avez un trésor européen, vous avez un contrôle des banques exercé par un organisme indépendant, etc., etc. Tout ce qui doit être exercé par un pouvoir politique clairement identifié qui rend des comptes à une assemblée clairement identifiée. Et ça, ils n'ont pas été capables de le faire, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de majorité politique en Europe pour accepter un tel saut fédéral. Et ils espéraient que l'apparition des pièces et des billets en euros en 2002 créerait ce qu'on appelait, et ce que Hubert Védrine avait appelé, ancien ministre des Affaires étrangères socialiste, le choc fédéral. Et il n'a pas eu lieu, parce que au fond, tout allait bien. Les marchés ont cru à l'euro, et ils ont pensé qu'il y avait une solidarité financière entre les États. Voilà pourquoi, aujourd'hui, l'euro est toujours au même point qu'il l'était en 1999.
Oui, ce que vous dites, en fait, c'est que les successeurs de ces fondateurs ont été plutôt fainéants.
C'était les rois fainéants, c'était les mérovingiens, si vous voulez. Et c'est vraiment sous la contrainte de la crise que les États, à partir de 2010-2012, qu'on a enfin commencé à aller un peu plus loin dans l'intégration. Mais il était déjà presque trop tard, parce qu'on n'a pas fait une intégration fédérale, on a fait une intégration intergouvernementale. Qu'est-ce que veut dire cet horrible mot? C'est simplement, c'est les États qui gardent le contrôle. La Banque Centrale Européenne, c'est un organe fédéral, parce que les États n'ont pas leur mot à dire. C'est des gens qui sont désignés pour la Banque Centrale Européenne et qui décident en toute souveraineté de la politique monétaire. Là, par exemple, le mécanisme européen de stabilité qu'on a créé, qui peut lever sur les marchés 750 milliards d'euros pour venir en aide à un pays, eh bien, c'est une décision qui est prise par les États. On l'active ou on l'active pas. Et à chaque fois, dans ces constructions nouvelles, les Allemands ont exigé d'avoir un droit de veto. Pas pour eux-mêmes, mais pour l'ensemble des États. Donc aujourd'hui, n'importe quel État peut bloquer l'activation de ces mécanismes de solidarité financière. Et donc ça veut dire que vous n'êtes pas dans un État fédéral, vous êtes dans un État intergouvernemental où celui qui domine est l'État le plus puissant. Et qui domine le système aujourd'hui?
C'est l'Allemagne. Alors c'est justement ce que vous critiquez, vous dites qu'il y a un vrai problème dans le fonctionnement notamment de l'Eurogroupe. Pire, vous parlez de scandale démocratique quand vous évoquez notamment la énième crise grecque dans cet épisode qui suit la crise des subprimes et la crise bancaire.
Oui, parce que aujourd'hui, la façon dont la zone euro fonctionne, vous êtes d'un côté la politique monétaire et, je dirais, un semblant de coordination des politiques économiques et budgétaires. Et qui exerce ce contrôle? C'est la Commission européenne et l'Eurogroupe qui regroupe les ministres des Finances des 19 pays de la zone euro. Ces deux organismes ne rendent de compte à aucun parlement. Le Parlement européen n'a aucune compétence pour sanctionner, par exemple, la Commission ou pour demander à l'Eurogroupe de rendre des comptes, d'expliquer sur par exemple, les programmes d'austérité qui ont été appliqués à la Grèce, au Portugal, à l'Irlande. En fait, vous avez pensé que la zone euro, c'est un véritable régime illibéral. Au fond, la zone euro, elle a réussi à confisquer une partie de la démocratie, une partie de la souveraineté populaire. C'est le rêve de Viktor Orban. C'est un régime illibéral. C'est-à-dire, je ne rends de compte à personne. Je suis le gouvernement des meilleurs et vous devez me faire confiance. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les peuples se méfient de ce genre de pouvoir. Regardez, l'euro est un succès. 65% des Européens sont attachés à l'euro. Il n'y a que 25% qui veulent en sortir. Mais en même temps, les citoyens votent pour des partis populistes. La question, c'est pourquoi est-ce qu'ils votent pour des partis populistes alors qu'ils sont attachés à l'Union Européenne, ils sont attachés à l'euro? Peut-être parce que, justement, ils sentent bien que cette construction, elle n'est pas démocratique. C'est pas malin de voter pour des partis d'extrême droite au nom de la démocratie, mais c'est une façon de dire, le système tel que vous l'avez bâti ne nous convient pas. On veut garder l'euro, mais on veut pouvoir contrôler ce qui se passe à Bruxelles.
Jean Quatremer, avec Catherine Roland, son livre Il faut achever l'euro est publié chez Calman Lévy. Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous nous suivez, vous nous réécoutez sur internet rfi.fr et sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve ici, demain, à la même heure.